Quand vous faites la mise à jour de vos podcasts dans votre logiciel de podcasting préféré, quelle est l'émission que vous écoutez en tout premier? C'est sûr que ça revient à vous poser la question, quel est votre podcast préféré? Moi, personnellement, ma liste de podcasts préférés ou de podcasts que j'écoute tout de suite a légèrement évolué avec le temps parce que bien, c'est sûr qu'il y a des émissions qui ont disparu, il y a des émissions qui sont devenues moins fréquentes et je me suis rabattu sur d'autres. Parfois, les autres sur lesquels je me suis rabattu sont même peut-être meilleures que celles que j'écoutais à l'origine, mais j'ai quand même un attachement profond envers certaines émissions que j'écoutais il y a 4, 5, 6 ans, voire plus que ça. Comme par exemple des émissions comme le Zcast, des émissions comme Bob and AJ, comme In Over Your Head de Julien Smith, tout ça, qui ont été remplacés parfois par des podcasts indépendants, parfois par des podcasts commerciaux, pas nécessairement commerciaux, mais produits par des radios. J'ai juste à penser, par exemple, à This American Life, produite par la radio publique américaine, ou The Moth, qui est un très, très bon podcast indépendant. Et vous, quel est votre podcast préféré ou quel est celui sur lequel vous vous jetez tout de suite lorsque vous en avez la chance? Mon nom est Sylvain Grandmaison, vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. Vous avez peut-être reconnu Weezer avec la chanson Buddy Holly. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai décidé de faire jouer cette chanson-là. Mais d'abord, bienvenue. Le thème de l'introduction m'est venu d'un message que j'ai eu de Jean-Sébastien Hamel, qui m'a envoyé un message en me disant que oui, j'étais son préféré. Hey, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir parce que je sais le genre de connexion qu'on a avec les podcasts, les podcasters. Et quand on a certains préférés, ça fait tellement du bien de les entendre dans nos oreilles à nouveau. Donc, je te salue beaucoup et je te remercie énormément. Si vous voulez que je continue à produire des podcasts, faites quelque chose. Allez dans iTunes, allez dans la page du Québec en balado-diffusion et allez ajouter des étoiles ou ajouter un commentaire. On ne sait pas exactement comment Apple classe ses podcasts, bien sûr, par téléchargement, par popularité, tout ça, mais aussi en fonction des commentaires et des étoiles. Ils ont changé leur façon de présenter les podcasts, ils ont envoyé des messages à tous les producteurs de podcasts. Et puis, avec les nouveaux paramètres, il y a des choses qui ont changé, des références, des étoiles, des commentaires ont été effacés à la suite de ça. Donc, j'en ai déjà eu beaucoup plus. Donc, si vous voulez aller mettre 4, 5 étoiles, mettre un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Ça donnerait un bon coup de pouce à mon podcast et ça m'encouragerait à en produire plus. Avant d'aller plus loin, je vais vous en parler. J'en ai un carburant de la semaine. C'est une LEF que j'ai déjà débouchée parce que l'application Boss Jock avec laquelle j'enregistre a planté. Je ne peux pas vous la déboucher live, mais je peux vous faire jouer un son qui va vous le rappeler. Hein? Ça, c'est mon son en canne de on verse quelque chose. Oui, c'est de la LEF, c'est ce que j'avais dans le frigo. C'est une bière d'abbaye. On dit qu'elle est produite depuis 1240, mais je ne sais pas, peut-être. C'est très, très fort possible. C'est une vieille abbaye. Et cette abbaye-là, c'est départie des droits sur sa bière tellement que eux-mêmes ont plus le droit de produire de la bière et de la vendre. Les moines qui produisaient la bière originellement dans la vraie abbaye ont même plus le droit de commercialiser de la bière, ce qui est une aberration totale. Mais bon, c'est le prix pour avoir vendu les droits sur leur bière. Donc, je vous en parle un petit peu. C'est une bière d'abbaye. C'est la classique des classiques. Même si elle est un petit peu plus commerciale, elle est toujours aussi bonne, toujours très ronde, parfumé, c'est le classique des bières d'abbaye belges. Et c'est rond en bouche. C'est disponible à peu près partout au Québec. Donc, je vous la recommande, bien sûr, si vous aimez les bières belges. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Mais pourquoi je vous ai fait jouer Buddy Holly? C'est parce que mon copain Bob Goyetch a recommencé à faire des podcasts. Lui qui est un des pionniers au Québec du podcasting et même au Canada. Il y a eu un des 5 premiers podcasts au Canada, c'est sûr. Et probablement le podcast qui a duré le plus longtemps, le Bob and AJ Show. Il avait un peu arrêté, il y a eu des petits problèmes, je pense, avec ses sites qui ont été peut-être hackés, tout ça. Et il produisait moins souvent, donc il s'est remis à produire avec l'application Boss Jock, justement, qui simplifie. Il a vraiment utilisé une façon simplifiée de produire. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a le plus envie d'en faire, c'est si c'est simple. Au début, faire des podcasts, c'était tellement, tellement compliqué. On se compliquait aussi la vie de faire du montage. On enlevait les longueurs, les hésitations dans notre voix. Puis, ça rendait le podcast un peu plus stérile. Moi, je trouve que c'est le fun, un podcast qui est vivant, qui a des petites erreurs. Ça rend la chose plus personnelle, différent de la radio aussi. Et c'est ce qui fait tout le charme du podcasting. Il y a beaucoup d'outils qui apparaissent dernièrement pour faire du podcasting, beaucoup d'applications comme Boss Jock. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans une future émission de ces outils-là, mais c'est vraiment le fun ce qui se passe en ce moment pour le podcasting. C'est comme s'il y avait un regain pour cette façon de produire-là. Je regardais les chiffres, c'est fou comment le podcasting aux États-Unis est toujours de plus en plus populaire, stagne un peu au Canada, puis depuis 3-4 ans au Québec, ça descend, ça remonte. C'est pas tout à fait aussi populaire. C'est explicable par différentes choses, entre autres, c'est parce que la radio publique ne met plus aussi l'emphase Radio-Canada ici sur le podcasting depuis qu'ils ont un nouveau directeur. Tandis que, c'est sûr, le penchant, la CBC met encore beaucoup d'enfants sur le podcasting, produit encore beaucoup d'émissions disponibles seulement en podcasting. Même chose aux États-Unis, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Il y a un regain aux États-Unis, entre autres, qui est mené par les humoristes. Adam Carolla, entre autres, Mark Maron, ces gars-là. Donc, ça bouge beaucoup. Même Forbes a fait un article, un superbe article sur le podcasting. dernièrement et comment, ben justement, il y a des petits empires du podcasting qui se créent, des gars comme Madame Carola qui a, je pense, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent pour lui autour de ça. Même chose pour Leo Laporte. Je ne me rappelle plus combien de gens qui travaillent avec Leo Laporte, mais c'est beaucoup, beaucoup. Ils vont chercher justement de la pub, mais ça prend du volume. Donc, c'est toujours une question de volume pour pouvoir faire de la pub et monétiser le podcast. Donc, mon sujet du jour, entre autres, je vais vous parler un peu de Facebook et des changements dernièrement qui ont eu lieu ou qui ont lieu actuellement. Il y a une nouvelle timeline, si elle n'est pas apparue dans votre profil, elle va apparaître bientôt. Ils vont apparaître bientôt, ces changements-là. Donc, nouvelle timeline, plus visuelle. On sent l'influence de Pinterest. Et pourquoi? Ben, c'est marqué que Pinterest, grâce à son interface visuelle, ramène plusieurs fois plus de gens sur les sites web que Facebook ou Twitter, par exemple. Et aussi, presque la moitié des gens à chaque jour se sont retrouvés sur Pinterest parce qu'il y avait quelque chose de publié sur Pinterest et publié par la suite sur Facebook. Donc, on voit qu'il y a un regain pour le contenu qui est très visuel, pour les images, pour la vidéo aussi beaucoup, évidemment. Donc, on met plus l'emphase là-dessus. Une timeline un peu simplifiée. C'est drôle, on revient à une timeline un peu plus simplifiée comme c'était auparavant. On grossit le contenu visuel et à place d'être plus en morceaux morcelés, ben, on vient avec une timeline un petit peu plus large. Donc, ça va être bon pour les marques, ça va être bon pour les gens qui produisent du contenu visuel, qui postent des photos, tout ça. Ça va aussi mettre l'emphase sur les gens qui mettent des photos de minous sur Facebook. Et ça va peut-être un peu diminuer la valeur des textes et des discussions qui sont sur Facebook, qui sont très riches. Si on pense qu'on va doubler et tripler la taille des images dans la timeline, c'est sûr que le texte risque de passer un petit peu inaperçu, malheureusement. Moi, je pense que ça va être bon pour les marques. Si les marques commencent à embarquer un peu plus et à poster beaucoup de contenu visuel, comme certains le font, ça va être très, très, très gagnant pour eux, j'en suis sûr. Oui, je vais vous parler aussi de la nouvelle application Home de Facebook sous Android que Mark Zuckerberg a parlé récemment. D'abord, ça va tourner sous l'appareil HTC. Et on parle depuis longtemps, il y a plusieurs rumeurs de téléphones Facebook qui sont apparues. Et on pensait que peut-être Facebook allait lancer son propre téléphone, donc du hardware, un appareil physique avec une interface sur mesure, ou qu'il allait prendre un téléphone existant à lequel il allait ajouter son propre logiciel. Et c'est même pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent une couche par-dessus le logiciel Android. Donc, comment ça fonctionne? C'est une application qui est installée et qui devient, on essaie de l'activer de façon permanente. Comme ça, quand on allume son téléphone, on voit tout de suite le contenu des gens. Donc, notre écran nous passe en boucle du contenu publié par nos amis sur Facebook tant que ben on fait pas autre chose, on n'envoie pas un message, téléphone, tout ça. Donc, on y totalement en immersion dans le contenu qui est généré sur Facebook, c'est moins dérangeant qu'une timeline parce qu'il n'y a pas 20 000 choses, il y a un seul élément qui passe dessus à la fois. Ça ressemble un peu à Flipboard ou à ce genre de choses-là, d'agrégation RSS. Ce qui n'est pas inintéressant, sauf que, encore une fois, c'est le dieu Facebook qui est toujours, toujours ramené tout à Facebook, même dans son téléphone, ça peut devenir un peu agaçant. Donc, le logiciel va remplacer le home screen qu'on appelle du logiciel Android. Donc, on pourrait seulement fonctionner avec le home de Facebook et appeler nos amis, envoyer des SMS, tout faire à l'intérieur de ça. Donc, c'est sûr que Facebook désire que toute l'interaction passe par eux et puis passer justement par le logiciel, le système de l'appareil ou par notre carrier, c'est-à-dire notre fournisseur de services au niveau du cellulaire. Donc, ça fonctionne en étant une application. Donc, c'est une application qui est forcée par-dessus le système Android qui lui-même est installé sur un téléphone de tierce partie. C'est sûr que c'est plus facile quand on a un seul appareil, comme c'est le cas en ce moment parce que, bon, on le fait sous HTC, mais vous pouvez vous imaginer la complexité et aussi les problèmes au niveau de compatibilité des écrans, des processeurs, des cartes audio qu'il y a dans tous ces appareils-là, tout ça. Il y en a plein de téléphones Android, mais trouver une façon que ça soit commun et sans bug pour tous ces appareils-là et toutes les versions d'Android, c'est un sacré casse-tête. C'est toujours plus facile faire ce genre de choses-là dans sur une plateforme plus fermée comme Apple, mais on verra si Facebook décide de passer ça sous iOS dans le futur. J'ai hâte de voir en action ce truc-là et je t'ai dit un œil, ça peut être assez intéressant. Oui, je vous avais parlé tout à l'heure de Buddy Holly, je vous ai parlé de Bob Goyetch, mais je ne vous ai pas expliqué le lien entre les deux. C'est que Bob, dans son nouveau podcast, il parle d'un sujet court, ça dure généralement moins de 10 minutes. Il fait toujours jouer une chanson et généralement, il explique un peu pourquoi il fait jouer cette chanson-là, tout ça. Il a fait jouer du Buddy Holly dans un épisode, donc de là m'est venue l'idée de faire jouer des trucs qui ont rapport avec Buddy Holly, d'abord du Weezer, et je vais vous faire jouer aussi un démo. Donc Buddy Holly, quand il est mort, il y avait plusieurs démos qu'il avait enregistrées chez lui sur un appareil à bobine, et ils sont très bons. Si vous cherchez sur iTunes, là, il y a des démos qui sont disponibles, il y a des albums de démos de Buddy Holly qui ont été mis en ligne comme ça. Mais il y a aussi, à l'époque, il y a eu des albums posthumes qui ont été faits avec des musiciens de studio. Et c'est ce que Bob nous explique. Je vous conseille vraiment, je vais vous mettre un lien dans les notes de l'émission pour vous abonner au show de Bob Goyetch.